chers auditeurs et auditrices. Nous, élèves de Terminal STMG, nous allons vous parler de deux entreprises nantaises grâce à l'aide de deux femmes, Annie Guillaumard, qui nous présentera son engagement syndical au sein de Chantel, et Jocelyne Griveaux, qui elle s'engage syndicalement dans l'entreprise Armor, pendant la période ouvrière où les femmes étaient très présentes. Cette période est marquante grâce à de nombreux mouvements de grève.
Nous allons nous intéresser donc à l'engagement syndical et à comment, mesdames, vous êtes arrivées dans vos entreprises respectives.
Quel était votre rôle dans votre syndicat, à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur?
Moi, j'étais déléguée du personnel, mais j'étais aussi déléguée syndicale nommée par la CGT.
Annie Guillaumard.
Ça veut dire que je représentais la CGT au niveau de mon entreprise, mais là, j'étais pas élue par les salariés. Que le délégué du personnel était élu par les salariés. Atadeli, CGT, CFDT, FO ou pas, je sais pas. J'étais suppléante au comité d'établissement. J'assistais aux réunions du comité central, c'est-à-dire que Épernay, Lorient, tout ça. On allait au siège social et on avait la réunion sur les bénéfices, pas les bénéfices, mal travaillé, bien travaillé, enfin tout ça. Et puis à l'extérieur, j'étais aussi élue par ma fédération, textile, habillement, cuir. Je participais aux commissions exécutives une fois par mois à Paris, à Montreuil. J'ai fait partie de la commission de contrôle, donc oui, j'ai beaucoup bougé à l'extérieur aussi. À l'UL, à l'UD, il y avait des réunions, donc... L'union locale, CGT, l'UD, union départementale. Oui, j'avais quelques responsabilités, donc je bougeais quand même.
Tandis que chez Armor, il n'y avait pas...
Jocelyne Griveaux.
Nous, il n'y avait que le syndicat. Donc, moi, j'étais élue titulaire au comité d'entreprise et déléguée suppléante au...
Déléguée du personnel.
Donc, voilà.
Dans quel contexte familial avez-vous travaillé? Et est-ce un choix ou une obligation?
Un choix. On est bien obligé d'aller travailler. Moi, j'étais toute seule avec mes filles, donc... Obligé d'aller travailler, pas choisi, et que l'usine.
Moi, après un CAP de coiffure, déjà en 68, on trouvait déjà pas de travail. On avait des apprentis, mais pas des ouvrières. Donc, j'ai cherché du travail ailleurs. Et je suis rentrée chez Chantel, une entreprise de lingerie féminine.
Est-ce que c'était votre première expérience professionnelle chez Armor et Chantel?
Oui, oui. Moi, je suis rentrée, j'avais 17 ans. Le 2 décembre, le 4 janvier, j'avais 18. Donc, j'étais payée encore moins cher parce que j'avais que 17 ans. J'avais dû avoir un franc, je ne sais pas combien, là, de l'heure.
J'ai commencé à 18 ans chez Waterman. Après, en 71, j'ai arrêté de travailler parce que j'ai eu mes enfants. Mon mari m'avait dit, ça serait mieux que tu restes à la maison, t'occuper des enfants, je vais avoir un meilleur salaire. Donc, ça serait mieux que tu restes à la maison, c'est ce que j'ai fait. Et après, on a divorcé, donc je me suis retrouvée à chercher du travail et j'ai trouvé le travail à l'usine. Voilà.
Combien de temps êtes-vous restée chez Armor et chez Chantel?
Moi, je suis rentrée en 81 et je suis repartie en 2006. Mais j'ai choisi le licenciement parce que l'usine s'en allait à la Chevrolière. J'avais 57 ans. Je pouvais profiter du chômage, donc c'est ce que j'ai fait. Et la prime de licenciement, c'est plus intéressant qu'une prime de retraite.
Donc moi, je suis rentrée à 17 ans, presque 18 ans, et je suis partie, parce qu'ils nous ont licenciés en 2005, donc 36 ans à peu près de travail chez Chantel.
Quels étaient vos rapports avec votre direction?
Conflictuels.
On n'était pas souvent d'accord. Les salaires, les conditions de travail, voilà.
Vous faisiez partie d'un syndicat, pour quelle raison?
J'ai organisé la CGT parce qu'il y avait déjà la CFDT dans l'entreprise, mais ça ne me convenait pas. Et puis, c'était nécessaire. Si on voulait défendre nos conditions de travail, travailler dans la dignité et pas sous pression, on a su faire. Et c'est pour ça qu'il y a eu de nombreuses luttes chez Chantel, pour les temps, pour les conditions de travail, pour les primes, puis surtout le meilleur salaire.
Et moi, c'est parce que chez Armor, il n'y avait que la CFDT. Et puis, des fois, ils ne nous écoutaient pas, en fait. Donc, un jour, on a décidé de monter la CGT. Voilà.
Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes qui adhéraient à la CGT et qui étaient militantes par rapport à ses droits et pour avoir de meilleures conditions de travail et de salaire?
Des syndiqués, on n'en avait pas beaucoup, en fait. Peut-être plus d'hommes que de femmes, quand même.
Chez nous, oui, c'était que des femmes, presque que des femmes. Les hommes, ils n'étaient pas impliqués. Donc, enfin bref, c'était beaucoup les femmes qui étaient syndiquées, beaucoup les femmes qui se battaient. C'était elles surtout qui avaient des conditions de travail plus pénibles que les hommes. Les hommes, ils étaient dans les bureaux pour faire les temps, la mécanique. Donc les filles au rendement à la machine, évidemment, elles étaient syndiquées. Donc oui, il y avait des femmes de syndiquées, heureusement.
Pourquoi y avait-il très peu de syndiqués dans votre entreprise?
Quand tu es toute seule avec un salaire, je pense que de payer un timbre, ça leur faisait un trou aussi dans leur salaire. Je pense qu'il y avait ça. Mais quand on demandait quelque chose, elles étaient toujours là.
Jocelyne, tu évoquais la question du timbre. Alors pour nous, un timbre, ça se met sur une enveloppe. Mais visiblement, pour un syndicat, un timbre, ça a une autre signification.
Il fallait payer tous les mois, en principe.
Donc l'adhésion mensuelle était signifiée par l'achat d'un timbre qu'on collait sur la carte d'adhérent.
Voilà.
Oui. Est-ce que c'était une heure de travail?
Normalement, c'est 1% du salaire, mais bon, comme c'était des petits salaires dans nos entreprises, c'était un peu moins. Après, ce qui a bien simplifié les choses, c'est la mensualisation. Ça veut dire que les gens remplissaient un RIB, mais tous les mois ou tous les deux mois, c'était tous les deux mois, c'était prélevé sur le compte en banque. Et nous, on passait dans les ateliers pour distribuer leurs timbres.
Est-ce que les hommes pratiquant le même travail que vous avaient les mêmes salaires et les mêmes droits?
Donc chez Chantel, c'était un peu compliqué de faire des comparaisons d'hommes et femmes parce que les hommes n'avaient pas les mêmes emplois que nous. Les méthodes, évidemment, ils avaient des bons salaires, hein, c'était des techniciens, les mécaniciens pareil. On pouvait pas faire de comparaison entre hommes et femmes. Mais en général, dans les industries, il y a toujours une 30% de différence entre le salaire d'une femme et d'un homme. Ça a peut-être changé maintenant, mais c'était à peu près cet ordre d'idée-là. Donc les femmes étaient toujours moins payées que les hommes.
Est-ce que nous, chez Armor, il y avait des postes pour les femmes et des postes pour les hommes? Et après, quand l'usine est partie à la Chevrolière, il y a des femmes qui sont allées sur les machines comme les hommes. Mais elles ont dû mettre du temps, sans doute, pour rattraper les salaires qui étaient quand même pas les mêmes. Il y avait des coefficients.
Vous, vous occupiez quel poste et quels étaient les plus difficiles comme poste?
Alors moi, je travaillais à la coupe. Déjà, j'étais pas rémunérée au rendement. Mais bon, on travaillait debout toute la journée. On n'était pas assises. On avait l'avantage de ne pas être au rendement. Mais bon, on avait malgré tout une quantité à produire. Bon, c'est vrai, il y avait des postes à la machine qui étaient plus difficiles que d'autres. Par exemple, quand ils posaient, ça ne va rien vous dire parce que c'est technique, le bordage en dessous, le soutien-gorge là pour mettre l'armature, là c'était compliqué. Il y avait des assemblages de petites dentelles et de mailles qu'il fallait piquer et assembler. Là, c'était compliqué aussi. Il fallait être très, très habile, très agile au niveau des doigts. Il ne fallait pas que ça glisse. Enfin, il y avait des temps aussi qui étaient plus serrés. Des gens qui avaient des opérations un peu plus longues, elles arrivaient à faire le rendement, et d'autres où c'était très méticuleux et le temps était assez court, donc elles n'avaient pas le rendement. Et c'est là que déclenchaient après des actions, parce que fallait revoir les temps.
Et nous, c'était les cassettes en fonction des pièces qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait plein de pièces. Des fois, on avait mal aux doigts, parce qu'il y avait des petits ressorts qu'on avait du mal à mettre. Donc il y avait certaines personnes, on ne les mettait pas dessus. Celles qui arrivaient bien à faire leur rendement, déjà d'avance, elles étaient avantagées par rapport à d'autres.
On n'a pas toute la même dextérité.
On était moins bien vus, donc voilà.
Et je voulais savoir aussi s'il y avait eu une évolution.
Chez Chantel, on était polyvalente, mais il n'y avait pas vraiment d'évolution de carrière dans l'entreprise.
Après, moi, je voulais savoir s'il y a eu des impacts sur votre santé ou pas, et si oui, lesquels?
Au niveau santé, les épaules fichues. Donc là, je devrais me faire opérer d'une épaule, faire mettre une prothèse. Donc j'hésite, parce qu'en plus, le chirurgien m'a dit que ce que j'ai perdu, je ne le récupérerai pas, donc... Ça fait 3 ans que j'hésite de le faire.
Souvent, les gestes répétitifs, oui, ça déclenche des tendinites.
Mal de dos.
Et au niveau des coudes, au niveau des cervicales, quand on est toujours penché devant la machine à assembler le dos aussi. Moi, je travaillais debout, ça allait, j'avais pas trop de soucis, mais les filles à la machine, oui, les gestes répétitifs, ça déclenchait des problèmes de santé, oui.
Porter des charges aussi. Oui, aussi. Et on avait des cartons à porter assez importants. Fallait mettre sur palette. Juste en dernier, avant que je parte, il y avait certaines qui, pour gagner du temps, prenaient les transpalettes électriques. Donc, ils ont voulu imposer à tout le monde de prendre les transpalettes électriques. Et moi, j'avais dit, non, moi, je ne prendrai pas parce que je n'ai pas eu de formation. Parce que chef d'équipe et leader avaient eu une formation et nous, on n'avait pas de formation. Donc, j'avais refusé de le faire. On est allé voir le gars qui était à la sécurité qui nous a dit, ah oui, vous n'avez pas à le faire parce que vous n'avez pas eu de formation. Et le lendemain, on arrive, le chef nous dit, si, j'ai vu avec le monsieur de la sécurité et il a dit qu'il faut le faire. Moi, j'ai refusé jusqu'au bout. Moi, je faisais arrêter la chaîne, je ne prendrais pas. Quand la chaîne était pleine, je disais aux filles, stop, la chaîne est pleine. Au départ, le chef d'équipe, il venait pas. Mais après, je vais te dire qu'il venait, parce qu'il s'est dit, la chaîne allait arrêter. Pendant ce temps-là, ça produit pas. Hein.
Est-ce qu'il y avait des dangers, par exemple, de vapeurs toxiques ou autres à cause des produits manipulés?
Il y avait des filles qui étaient au tonnerre, elles travaillaient avec des masques. Elles étaient toutes noires, donc je pense que si elles mettaient des masques, il y avait sûrement un problème.
Chez Chantel, nous, on avait un poste de détachage. Les pièces de soutien-gorge ou de gaine bougeaient d'une machine à l'autre. Il peut y avoir des taches de graisse, un crayon qui traînait par là, enfin bref. Donc il y avait un poste de détachage avec un produit plus ou moins toxique. Donc avec la médecine du travail, on faisait faire des prélèvements d'air et de produits pour voir si c'était toxique ou pas. Mais aujourd'hui, avec du recul... Quand je regarde toutes les copines qui sont décédées, je me dis, il y a sûrement un rapport. Et en plus, on travaillait du lycra, les soutiens-gorge en lycra. Vous savez, des petites matières qui brillent avec des petites particules un peu polyester, enfin, je sais pas trop. Quand les filles étaient à la machine et qu'elles faisaient le bordage en dessous, là, elles avaient plein de petites pluches dans les cheveux. chez Chantel, il y a eu trois grandes luttes. Il y a eu les temps. Après, on voulait que la grille des salaires, parce que les gens qui n'avaient pas leur activité à 100%, les filles qui faisaient 30 minutes pour faire un bac, si elle était bien à 30 minutes, elle était à 100%. La fille qui n'avait pas fait 30 minutes, mais qui avait fait 40, donc elle était en dessous de 100, donc ça veut dire qu'elle était payée en dessous du SMIG. Et on avait négocié ça quand on avait fait nos grèves par rapport au temps, que les filles qui étaient au minimum, qui n'avaient pas atteint les 100%, elles soient payées au SMIG. Donc ça, c'était une sacrée avancée, parce que la grille des salaires dans l'habillement, c'était très bas. Donc là, du coup, on avait gagné. Et il y avait eu aussi le contrôle statistique, parce que les filles, qui avaient des problèmes des fois de points ou de, je sais pas, il y avait tout un tas de choses qui pouvaient arriver. La machine déréglée, la fille s'en était pas rendue compte. On leur demandait de réparer sur leur temps de rendement. Donc du coup, ça faisait baisser leur rendement. Donc ça veut dire que le salaire aussi. On avait obtenu à ce qu'il y ait une contrôleuse qui vienne contrôler et lui donner les paquets et elle réparait pas sur son rendement. Donc ça veut dire que c'était pas défalqué de son salaire. Il y a eu en 81, c'était une grande grève aussi, occupation des locaux et tout, j'ai dit pourquoi ça ? Délocalisation, ben voilà, délocalisation. Ils commençaient à délocaliser la production. En Tunisie, ils ont commencé en Tunisie. Alors au début, ils disaient, ouais, on va délocaliser parce que ça sera pas les mêmes articles. Donc bon, il n'y a pas de souci à vous faire. Sauf que c'était exactement les mêmes. Mais bon, en Tunisie, elles étaient payées 5-6 fois moins cher que nous. Bref, on s'était battu longtemps avec occupation des locaux, la grève totale, la neige, les réveillons, tout ça. Il y avait même eu le Père Noël vert qui était venu pour tous les enfants des salariés avec un goûter et tout. C'était super intéressant. Et après, en 94-95, là, ils annoncent la fermeture de l'établissement de Saint-Herblain. Et ils nous annoncent ça par téléphone. La fille qui était secrétaire du CCE, comité central d'entreprise, qui regroupait tous les établissements de Chantel, il l'appelle et puis lui dit voilà, on a comme projet de fermer Chantel, Saint-Herblain. Alors le coup de massue quoi. Il fallait déjà qu'on se remette, hein, nous. Et puis après, on appelle à débriller. Tout le monde sort de son poste de travail, on s'en va tous à la cantine et on explique la situation. On vient de recevoir un coup de téléphone de l'employeur qui veut fermer le site de Saint-Herblain. Ben là, les filles, elles étaient très très mal. Alors, on a pris des carafes d'eau, des verres d'eau et tout pour qu'elles se retapent, hein, parce que tu perds ton boulot, tu perds ton salaire, tu perds tout, quoi. Et là, ça a été aussi très long. On a été un an de lutte, de grève, de manifestation avec l'inspection du travail. Ils avaient fait un plan social et on n'était pas d'accord à l'inspecteur du travail non plus. Ils avaient dressé un procès verbal de carence. Ça veut dire que l'inspection du travail n'était pas d'accord par rapport à l'argumentation pour la fermeture du site. Donc ça a reculé. Ils ont recommencé toutes les formalités. Ça nous a donné un peu de temps. Et là, ils ont décidé quand même de fermer, et donc les 200 personnes normalement devaient être licenciées, sauf qu'il y a eu un repreneur qui est venu, il a gardé 60 personnes pour aller sur Sautron, et les plus rebelles, ceux que le sous-traitant ne voulait pas, bah nous, quoi, les délégués, on est restés que sur Couéron. On a quand même tenu 11 ans, comme ça, heureusement qu'on s'est battu, et à chaque fois, on s'est battu un an. Même à 30, on s'est battu un an, avec tout un tas de démarches et tout, mais on était infernal, quoi.
Et c'était que des femmes.
Et c'était que des femmes. Elles sont formidables, les femmes.
Parce que nous, il y avait hommes et femmes.
Et chez Armand, les principales luttes, elles étaient liées à quoi et elles ont eu lieu à quel moment?
Je suis rentrée en 81, donc il y avait peut-être eu avant, mais enfin, on avait du mal à faire des mouvements au départ parce qu'il n'y avait qu'un seul syndicat. Je pense que c'est en 92 ou 93 qu'on a dû monter la CGT. Donc après, il y a eu des mouvements. Donc même le patron nous disait qu'on voulait casser Armor. C'était des trucs comme ça qu'il nous disait. Donc ça a été pour les salaires, ça a été les conditions de travail aussi. Il y avait le temps. Et pareil, ça a délocalisé. Il y a certains produits qui sont partis au Maroc, en Pologne, en Chine même. Et puis en Amérique, je ne sais plus où.
Et là, vous n'êtes pas battu?
Si, il y avait eu des grèves à ce moment-là parce qu'ils ont profité de faire partie des personnes qui avaient 55-56 ans pour tous ces postes-là, en fait.
C'était pas des plans sociaux.
Non, c'était pas des plans sociaux, en fait.
C'est complètement différent.
Après, il y en a eu quand même, mais c'était pas comme toi, la fermeture de l'usine. Ça n'a pas été du tout les mêmes problèmes, en fait.
Comment est-ce que ça se passait avec les syndicats pour organiser les grèves?
Ça dépendait de la raison. Si, par exemple, il y avait une copine qui avait des gros problèmes de rendement, qui n'arrivait pas à faire les pièces dans le temps, elle venait nous voir, on discutait, puis après, on s'organisait, on faisait des assemblées générales. Et puis on décidait soit d'aller porter la revendication à l'employeur, ou alors on se disait, allez, on en a marre, on se met en grève, et hop, tout le monde était en grève dans les vestiaires, et nous, on avait rendez-vous avec la direction.
Qu'est-ce que vous voulez dire dans le temps?
Quand ils fabriquaient un article chez Chantel, il y avait un temps par opération. Par exemple, tu piquais une bretelle de soutien-gorge, admettons, t'avais, 30 secondes pour piquer, pour faire un point d'arrêt sur ta bretelle. Donc chaque soutien-gorge était découpé en opérations, et chaque opération avait un temps, plus ou moins long, plus ou moins réalisable ou pas. Et c'est ça quand on parle des temps. Si on avait, par exemple, pour mettre un nœud là, ou un petit macaron, c'est pareil. Il y avait un temps pour tout. Donc il y avait des temps qui étaient plus ou moins longs. d'autres plus réalisables que d'autres. Et c'est pour ça qu'on s'est beaucoup battu pour les temps. Mais les temps, c'est ça. L'étude méthode examinait l'article et se disait, tiens, pour faire ça, allez, 30 secondes. Bah oui, mais 30 secondes pour une fois. Mais si tu le fais toute la journée, à répéter, tu tiens pas la cadence, que je veux dire. Donc, voilà.
Moi, j'avais entendu le gars des méthodes par rapport aux cassettes. Il disait que c'était le nombre de pièces qu'on mettait dedans. Il comptait par rapport au nombre de pièces. Donc, si dans une cassette, il y avait 10 pièces, il comptait son temps par rapport aux 10 pièces. S'il y en avait que 6, bon, ça augmentait le nombre de cassettes à faire. Et aussi, tout à l'heure, je disais, en dernier, je travaillais dans un autre atelier. Et au départ, il y avait une fille qui préparait les cartons pour que l'autre mette les rouleaux du thermique dedans. Et tout d'un coup, le gars des méthodes avait décrété que la fille qui mettait les rouleaux, elle devait faire elle aussi les cartons. Alors moi, je lui dis, bah, je ne vais pas le dire comme je lui ai dit, mais bon, tu dis que c'est faisable, et ben, tu vas nous le démontrer, que tu vas venir nous le faire voir. Et puis il dit, bon, bah, je viendrai demain matin à 9h. Je lui dis, bah non, tu rigoles, toi. Je lui dis, nous, on commence à 5h, tu viendras à 5h, comme nous. La chef d'équipe, elle était quand même gentille avec moi, je vais te dire. Elle m'avait retirée du poste et je suivais ce qu'ils faisaient, eux autres. Et à un moment, il paniquait, ce gars des méthodes. Ah, bah, j'ai plus de carton, qu'est-ce que je fais? Ah, si tu te débrouilles, t'as dit que c'était faisable, ben montre que c'est faisable. Puis à la fin de la journée, ben je lui ai dit, est-ce qu'il voulait choisir avec qui travailler? Je lui ai dit, toi qui voulais choisir ton personnel, ben moi si je fais comme toi, en tout cas je voudrais pas travailler avec toi. Il arrivait pas à s'organiser en fait, puis pas calme, c'était surtout ça, il était pas calme, alors il paniquait complètement.
Toujours pour parler des temps, je me permets, il y a des fois quand on disait, ben non c'est trop court, on peut pas piquer les bretelles, le gars des méthodes il venait avec son chrono, il est à côté de la fille et puis il la chronométrait. Mais il la chronométrait sur un paquet par exemple. Mais en plus, quand t'as quelqu'un sur le dos, ça t'énerve, tu vas plus vite. Donc, c'était pas du tout représentatif du temps qu'il fallait vraiment sur la journée. Après, tu te remballes ton bac, tout ça, il y a tout un tas d'aléas. Et des fois, on faisait venir la chef pour lui dire, ben, fais-nous voir comment tu fais pour piquer ta bretelle.
Comment est-ce que vous avez fait pour concilier une vie de famille et une vie de travail?
J'avais mes parents pour s'occuper de mes filles. Enfin, j'avais 8, 9 et 11 ans. Donc, mes parents s'en occupaient. Et par contre, pour aller travailler, parce que c'est pas que pour le syndicalisme. Bah, par rapport au syndicat, c'était sur le temps de travail, en principe. On avait des réunions sur le temps de travail. Je travaillais en équipe matin ou après-midi. Si les réunions étaient le matin, puis que moi j'étais de l'après-midi, si je venais le matin, je récupérais mon temps le soir, ou vice-versa, on récupérait notre temps.
Est-ce que vous aviez le temps de faire autre chose en dehors de votre travail, comme des loisirs, sortir?
Ah oui, on trouve toujours le temps pour s'amuser. Oui.
Donc maintenant, nous allons passer aux questions qui traitent d'après le mouvement, de l'impact et des ressentis.
Après les mouvements les plus importants qu'il y a eu dans chacune de vos entreprises, quels étaient vos ressentis?
Quels étaient nos ressentis? Alors, on a eu des drôles de choses, nous, pendant nos conflits. Comme il y avait des gens qui faisaient pas grève, parce que les bureaux, tout ça, faisaient pas grève, les méthodes non plus, certaines nanas non plus. La direction venait tous les jours, quand on était en grève totale, hein, tous les jours leur apporter des petits pains au chocolat le matin. Et puis nous, on était dehors ou dans l'entreprise, et ben nous, on n'en avait pas de pain au chocolat. Donc quand on a repris, on était content de ce qu'on avait obtenu, parce qu'on avait obtenu des choses, heureusement. Mais il y avait quand même des rancœurs entre les nanas. Il y en avait qui n'avaient pas trop pied à vivre après. Mais bon, content de ce qu'on a obtenu. On est conscient que si on ne s'était pas battu, ben on aurait galéré au niveau du travail. Donc oui, il faut se battre, il n'y a pas d'autre solution.
Et moi, je me rappelle, après une grève, c'était des augmentations individuelles. Quand on a repris à travailler, le chef d'atelier poste, il me dit... Souriez, Madame Griveaux, vous avez eu de l'augmentation. Je lui dis, c'est pas une augmentation, c'est une régularisation de salaire par rapport aux autres. Voilà. Et par contre, par rapport aux grèves, ce qu'on avait fait, parce qu'il y avait quand même des filles qui avaient fait grève, mais qui étaient toutes seules, qui tiraient vraiment le diable par la queue, hein, faut dire, hein, parce qu'avec les salaires. Donc on avait organisé une quête auprès de celles qui travaillaient. Alors il y en avait qui faisaient la gueule, hein, qui voulaient rien donner. Et par contre, on avait un chef, vraiment quelqu'un qui était de notre côté quand même, malgré son grade. Il nous avait donné de l'argent, un gros billet, et il nous avait dit, par contre, vous direz pas que je vous ai donné quoi que ce soit.
Au moment des grèves, aviez-vous l'impression que les choses allaient changer?
On faisait ce qu'il fallait pour changer les choses. Le but, c'était ça, c'était de changer les choses.
Est-ce que justement, quelques semaines après les mouvements de grève, vous aviez l'impression que les choses changeaient déjà ou ça a mis beaucoup plus de temps?
Ah ben non, à partir du moment où on négociait un accord, c'était signé, donc c'était applicable aussitôt. Sans lui aurait pas laissé la vie belle, hein, sinon... Oui, non, c'était immédiat, oui. Par exemple, les temps, quand les copines n'arrivaient pas, qu'elles pleuraient sur leur machine parce qu'elles étaient en bas de l'échelle par rapport au rendement, ben, ils se dépêchaient puis ils venaient appliquer les nouveaux temps. Oui. Mais aussitôt, oui. Oui, c'était aussitôt.
Même les personnes qui manifestaient pas, enfin, qui faisaient pas le mouvement, elles ont quand même bénéficié de tous ces changements-là.
Bien sûr.
Est-ce que ça a créé encore plus de désaccords?
Non, parce qu'il faut être intelligent. Mais bon, il y avait quand même quelques rancœurs. C'est vrai, on se dit, on se bat, on est dans la rue, on perd du salaire, et les autres, ils travaillent, ils ont leur salaire. On se disait, ça devrait pas être appliqué à ces gens-là. Mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Tout le monde bénéficiait de ce qu'on obtenait. Bien sûr.
Quelles conséquences avez-vous pu observer sur votre vie personnelle et professionnelle et comment l'avez-vous ressenti?
Des augmentations, on nous oubliait souvent, en fait. Comme toutes les personnes syndiquées, déléguées, tout ça, je pense que on était un petit peu bridés dans nos salaires.
Au niveau du salaire, moi j'étais plusieurs années à avoir zéro en augmentation. Mais c'est vrai qu'on se battait pas trop pour la discrimination, on aurait pu faire ça à ce moment-là. Annie Guillaumard, c'était la moins payée de l'entreprise, sans rien. Et au niveau de la famille, quand on était en conflit et qu'on occupait, on était beaucoup absent quand même. Heureusement qu'on avait des nourrices. Enfin, moi, c'était maman. Mais oui, ça joue quand même sur la famille. Si Marie, il est conciliant et qu'il est aussi militant, il comprend. Mais les autres, Marie qui n'était pas engagée syndicalement, ça devait poser des problèmes. Comme j'ai dit ce matin, il y a eu des divorces, des séparations après les gros conflits.
Est-ce qu'il y a des femmes qui vous soutenaient pas pendant votre révolte?
Ah oui, il y a toujours des gens qui n'ont pas envie de se battre, qui veulent rester dans leur coin, et puis qui, je sais pas, enfin, il y a toujours, plus ou moins, on les appelait les jaunes.
Est-ce qu'il y en avait qui veulent rester dans leur coin, mais qui sont contre?
Je sais pas si c'est contre, elles avaient pas envie de s'engager, ou alors pas se dédouaner, pas faire voir qu'elles sont en conflit avec la direction.
Elles avaient peur aux représailles, et surtout, je pense que c'était ça. Mais se dire, après, on va nous taper dessus.
Ça fait mieux auprès de la direction de pas bouger, mais enfin bon, on n'est pas des moutons non plus.
On a retenu que l'entreprise, elle a fermé, ça a eu quoi comme impact, en fait?
L'impact, c'est que certaines personnes n'ont jamais retrouvé de travail. Puis après, ça joue sur le moral, sur les enfants, sur tout ça. Moi, je me rappelle d'une émission ici sur Levi's, les jeans. On avait été en conflit avant, nous. J'étais venue participer. Et il y avait aussi des gens qui s'étaient suicidés, des gens qui s'étaient mis à boire. Oui, il y a des conséquences énormes sur tout ça. Manque de travail, plus d'argent à la maison. Oui, il y a des conséquences, c'est sûr. Sur la santé, oui.
Après tout ça et toutes ces conséquences, est-ce que vous êtes fière d'avoir fait ce que vous avez fait?
Oui, je crois que j'aurais pas pu rester les mains dans les poches. Donc oui, on est fiers de ce qu'on a fait, de ce qu'on a obtenu. Et des fois, après les conflits, une fois, on avait fait, après la grande grève de 81, on avait fait un spectacle à Bassins, dans une grande salle. On avait fait venir un chanteur, un guitariste, je sais pas quoi, là. Et toutes les familles et tous les alentours étaient invités. Et on avait fait payer l'entrée un petit peu pour récolter un peu de fonds pour notre conflit. Puis on faisait des fois des fêtes, prenait l'apéro, des gâteaux, des trucs comme ça, pour arroser nos victoires. Parce que c'est des victoires.
Nous, on faisait pas beaucoup de grèves quand même. Vraiment des grosses grèves, je crois qu'on peut les compter. Par contre, des fêtes au niveau du CE, c'était l'arbre de Noël. Il y avait l'après-midi pour les enfants et le soir, les parents, même les retraités, venaient à l'arbre de Noël. Forcément, c'était un buffet. Après, ça dansait. Et une année, c'était juste après une grève. Il n'y avait personne des bureaux et personne de la direction qui s'était inscrit à venir. On avait fait la remarque et il y en avait un, des directeurs, il avait réussi à amener des gens des bureaux et lui en personne était venu le soir à l'arbre de Noël.
C'est quelque chose qui a créé beaucoup de solidarité en fait entre chacune de vous et chacun du coup.
Ah oui, je pense que oui.
Même aujourd'hui.
Moi je vois toujours les collègues.
Chez nous, oui, il y a eu beaucoup de solidarité entre nous, oui. On a appris à connaître les gens. Moi je suis rentrée à 17 ans, on est toutes rentrées jeunes chez Chantel. On s'est mariés, on a eu des enfants. Donc on s'est suivis plus ou moins. Et quand ça fermait, en 2005, les filles, elles disaient, ça serait bien qu'on se revoie. Donc du coup, on avait créé une association. Et on se revoyait 3 fois par an à peu près. On faisait une galette. Après, on faisait un petit voyage avec un petit resto. Puis en septembre encore, on avait pique-niqué, puis on était à la pêche à Saint-Brévin. Enfin bref, des trucs sympas. Les filles sont hyper contentes quand on se retrouve. Normal. On a créé des liens forts, je trouve. Quand on a été dans le combat, enfin dans la lutte, on a traversé les mêmes choses difficiles, oui, donc ça reste ça. C'est très important.
À travers ces mouvements, quelles valeurs vous vouliez retransmettre en fait?
La valeur, le respect surtout, le respect de l'individu, le droit au travail surtout. Là, ils voulaient fermer l'entreprise et plus d'emplois, donc le respect d'avoir le droit de choisir et de travailler. C'était pas grand-chose, c'était que notre travail, on voulait conserver nos emplois. Et puis oui, la dignité dans l'entreprise, le droit de se défendre, le droit de pouvoir parler un peu quand même. On n'est pas des esclaves, 8 heures sur 8 heures à la machine sans rien dire. Si, on a fait des belles choses. Je suis fière quand même.
Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les grèves que vous avez faites, elles ont eu un impact sur actuellement le travail, les conditions de travail ou pas du tout?
Ça a sûrement amélioré les conditions de travail. Ça n'a pas été fait pour rien.
Oui, ça a amélioré les conditions, oui, bien sûr. Parce que les filles, au départ, fallait pas parler, fallait pas bouger, fallait pas se lever pour aller boire le café, il n'y avait rien. Donc après, on a obtenu des pauses quand même. même. Elles avaient droit à 10 minutes de pause le matin et 10 minutes de pause après-midi. Quand il y avait des problèmes de temps, on a réussi à modifier les temps, donc ils étaient plus longs. Elles arrivaient mieux à faire leur production, les filles. Et puis, on a eu aussi des avantages comme le 13e mois, prime de vacances, enfin tout ça. Puis surtout, les aménagements de poste aussi, pour pas avoir mal au dos quand t'es assis toute la journée sur la machine. Enfin, un tas de choses. Si on s'était pas battu, d'abord, ils nous auraient pas respectés. Ils nous auraient pas fouettés, peut-être pas, mais presque. Que là, on a quand même pu dire notre mot. Et si, si, quand même, on a été respectés. Si, si, bah heureusement. Puis le but, c'est ça aussi, hein, c'est de se battre pour améliorer.
Aujourd'hui, est-ce que vous estimez qu'il y a encore des choses à changer concernant les conditions des femmes en industrie française ?
Très certainement, parce que quand on parle autour de nous, ça s'est dégradé encore plus, je crois. Mais je ne sais pas si les gens sont aussi motivés, enfin, je ne sais pas comment expliquer.
Je ne sais pas si les gens sont motivés, oui, à se battre.
Nous, on craquait l'allumette et hop, tout le monde partait, c'est vrai. Et là, aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué. Mais on avait les mêmes charges qu'aujourd'hui. Je veux dire que tout le monde avait plus ou moins des prêts parce qu'il y avait les maisons, il y avait les enfants et tout ça, les voitures. Maintenant, il y a peut-être le téléphone en plus et je ne sais pas quoi. Mais on avait les mêmes besoins financiers, je veux dire. Mais là, il n'y a pas de détonateur, je ne sais pas. Mais on dit souvent que quand il y a des grandes crises comme ça, les gens, ils courbent le dos, ils courbent les chines. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont plus combattants. Est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas.
Ou certains qui considèrent que l'effort a été fait et que... Ils se contentent.
Ah ouais, mais on peut pas. C'est acquis à un moment donné, mais c'est remis en cause. On voit bien qu'ils remettent tout en cause, hein, la sécu, tout ça, enfin, plein de choses, la retraite et tout. Non, non, il faut toujours se battre pour les conserver. Normalement, on devrait pas se battre pour les conserver, on devrait se battre pour améliorer encore autre chose. Des fois, on se bat parce qu'ils veulent nous prendre un truc qu'on avait avant. Du coup, c'est l'inverse. Il faut se battre pour améliorer, mais pas pour récupérer les pauvres miettes qu'on avait avant.
Comme là, nous, on a eu la chance de partir à 60 ans. Moi, ma fille, elle a 54 ans, elle me dit, falloir que j'aille jusqu'à 64 ans. Elle dit, je supporterai pas ça tout le temps, à un moment.
C'est à vous de prendre le relais, les filles, hein, et les garçons, là, les jeunes. À fond, hein. C'est votre avenir. C'est votre avenir. Donc, faut que vous pensiez que, pour avancer, faut de la solidarité, de l'action, pas se laisser faire. Faut se battre tout le temps. De toute façon, la vie est un éternel combat, hein. À mon avis. La question que je me pose maintenant aujourd'hui, après avoir entendu nos témoignages sur nos actions, nos bagarres, est-ce que ça vous fait peur ou est-ce que vous dites oui, c'est le bon chemin? Il faut emprunter ce chemin-là pour s'en sortir dans la vie, parce que on face à tout ce qui nous tombe sur le coin du nez aujourd'hui. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je trouve que c'est un bel exemple justement de solidarité et qu'aujourd'hui, on n'a plus trop cet esprit-là. Oui, je pense qu'il faut s'inspirer de ça et qu'il faut continuer de se battre pour plus et pas se battre pour ce qu'on n'a plus.
C'est ça.
Moi, de mon point de vue, je vous ai entendu parler avec sourire et émotion. Tout à l'heure, on l'a vu. Personnellement, j'ai trouvé incroyable le fait de parler avec vous. Vous me racontiez votre histoire, comme dit Élise. Vous faites preuve vraiment d'une force et d'un courage qui nous inspire, qui moi, en tout cas, m'inspire. J'ai trouvé ça vraiment génial.
Merci.
Comme elles ont dit, donc Anouk et Élise, bah oui, totalement, vous avez inspiré la nouvelle génération. Et puis voilà, on peut se dire... C'est possible de se révolter, en fait, et c'est possible d'avoir du résultat positif derrière, en plus. Donc, je trouve ça magnifique.
Ça donne envie de faire valoir ses droits et de bien se débattre en voyant à quel point vous êtes fiers de tout cela.
On est assez fiers de ce qu'on a fait.
Monsieur Camus, selon une indiscrétion, vous auriez chanté pour Fantel. Pourriez-vous interpréter un petit extrait?
J'étais étudiant nantais et après, j'ai en effet chanté dans plusieurs chorales. Et je pense qu'il y a une chorale qui avait été invitée à un concert de soutien à Chantel. Et vous aviez une chanson fétiche qui s'appelait « Le chiffon rouge ». Alors, je veux bien essayer. C'est impressionnant. Je suis le professeur devant mes élèves, mais bon. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Bon, voilà, on peut s'arrêter là. Mais c'est...
Le programme s'inscrit dans le cadre d'un projet pédagogique. Hervé Camus.
Je suis le professeur d'histoire-géographie chargé aussi de ce qu'on appelle l'éducation alors morale et civique maintenant. Et dans nos programmes, on a à la fois une réflexion à mener sur l'histoire des femmes, en général dans la société, et puis aussi la démocratie, une des formes de la démocratie qui est l'engagement. Et puis ça fait plusieurs années que je travaille dans des classes de STMG.
STMG.
C'est des sections technologiques de management et de gestion. C'est des classes qui, ils vous le diront eux-mêmes, sont souvent un peu en dehors des projets qui sont dans les établissements. Ça fait au moins 2 ans avec des classes de STMG et la MHT qu'on mène des projets ensemble, beaucoup autour du patrimoine, de la valorisation du patrimoine, du travail et du mouvement ouvrier. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez retenu de nos enregistrements ?
La richesse des enregistrements, aussi comment les élèves, peu à peu, sont rentrés dans le jeu. On voit bien, il y avait les freins au départ, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Puis petit à petit, je pense que... Alors peut-être pas tout le monde, parce que voilà, on réussit pas toujours à 100%, mais je pense qu'il y a quand même une grande partie d'entre eux, bon je peux pas me retourner parce que je suis devant le micro, mais qui je crois s'est bien appliqué au fur et à mesure de la journée. Pour moi c'est satisfaisant.
Patsy, tu as assisté à l'ensemble des enregistrements, qu'est-ce que tu en retiens et comment tu peux conclure cette journée ?
Bah, moi je suis un bisu, c'est mon premier atelier pédagogique puisque c'est Manuela, ma collègue, qui gère ça d'ordinaire. Bah, moi j'ai trouvé que c'est quand même assez dynamique. Il y aurait une question à poser aussi aux jeunes, c'est est-ce que dans votre famille vous avez un lien avec le monde ouvrier ? Voilà. Ou est-ce que vous avez découvert quelque chose que vous ne connaissiez pas, à la fois bah, les cadences, l'ordre usinier des années 70-80, j'imagine qu'à votre âge, vous ne pouvez pas le connaître, mais je pense que c'était intéressant. Et puis autrement, durant tous les plateaux, ce qui est intéressant avec la parole des actrices, entre guillemets, c'est que ce qu'elles apportent de différentes que pourrait apporter, je sais pas, un spécialiste, un historien, un sociologue, etc., c'est qu'il y a du vécu. Et ça renvoie à la fois à la trajectoire personnelle, à toute la difficulté qu'il y a à mener de front, à la fois une vie privée, une vie publique, syndicale, etc. Donc voilà, c'est très riche. En tout cas, je trouve que les étudiants, globalement, ont bossé, quoi. Et puis, il y a peut-être des talents qu'on récupérera plus tard à Alternance FM.
Ce programme a été réalisé avec la complicité des élèves du lycée Alcide d'Orbigny de Bueil, de leur professeur d'histoire-géographie et de citoyenneté Hervé Camus, de Dorian Cougaud, médiateur du patrimoine au sein de la Maison des Hommes et des Techniques de Nantes, de Patsy, animateur-chercheur du CHT de Nantes, résident d'Alternante FM. Merci à cette belle équipe ainsi qu'à nos 2 invités militantes à la CGT, respectivement anciennes salariées d'Armor et de Chantel, Jocelyne Griveaux et Annie Guillaumard.
Et aujourd'hui, où est-ce que vous achetez vos sous-vêtements et votre encre ?
Bah, j'ai pas besoin d'encre, moi.
Donc les sous-vêtements, on avait une sacrée réserve de sous-vêtements. Hein, parce que chaque fois qu'il y avait un nouveau modèle qui sortait chez Chantel, ils étaient beaux. On avait toujours envie d'en acheter. On avait 40% sur les articles, donc ça valait le coup. Moi, j'en avais plein ma commode. J'en ai encore, hein, qui n'ont jamais servi. Mais aujourd'hui, bah, moi, j'ai porté que du Chantel toute ma vie. C'est confortable.
Tu leur fais de la pub.
Oui, mais c'est vrai. Je suis obligée. C'était de la qualité. Donc, j'avais de les réserves. Maintenant, j'en ai moins, évidemment. Donc, j'en ai racheté depuis. Il y a des copines qui ont complètement boycotté Chantel. De temps en temps, je vais chez Passionata. Ils ont diversifié un peu l'activité chez Chantel. Avant, c'était vraiment la marque que Chantel. Après, ils ont fait Passionata parce que c'était des articles. Ils disaient de moins bonne qualité. C'est pas vrai parce qu'ils étaient aussi sévères au niveau de la qualité. Mais un peu moins cher. Donc...
On fait pas de pub sur Alternative.
Ah oui, on fait pas de pub, excusez-moi. Oh, bah, tu diras Barbara et puis, je sais pas quoi, Well. Mais j'en achète quand même de temps en temps. C'est pas bien parce que j'ai fait valoir alors qu'ils m'ont viré.